l'aise comme un cou dans une corde. J'suis mal à l'aise comme un cou dans une corde. J'suis mal à l'aise comme un cou dans une corde. J'suis mal à l'aise comme un cou dans une corde.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez INCA.ca. Ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun. Mais t'as fait le tour pas mal vite. Puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salon attachant, on te promet de te faire voyager sans trop te ruiner.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Vendredi 10 septembre 2021, pour la première de cette 7e saison du réchaud, deuxième service. Vous écoutez chez 94.3 et c'est FAC 88.3. Bon vendredi sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec et de CFAC 88.3 à Sherbrooke. Vos radios universitaires préférées et, comme je le disais en ouverture, toute première émission de la saison 7 sur les ondes de Chiz, toujours dans la saison 4. À Chiz, saison 7 à CFAC. Même si ça fait quasiment 4 ans que c'est sur les deux antennes, je mélange encore les lettres. Content de vous retrouver cette semaine. J'étais en congé la semaine dernière. C'est assez rare. C'est une assez bonne moyenne à cette émission-là d'émission, mais C'est du côté du FME, du côté du Festival de la musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Et malheureusement, les plans d'enregistrer depuis l'Abitibi n'ont pas été succès. Donc, ça a été une semaine de congé, finalement. Mais on est de retour. On est de retour. Et on a été gâtés avec l'actualité de la semaine. Cette semaine, particulièrement, ne serait-ce que les débats qui ont donné beaucoup de jus... qui ont donné beaucoup de jus dans la journée d'hier et de... jeudi, de mercredi, c'est-à-dire. Avec les méchantes questions à Yves-François Blanchet et tout ça. Mais, dans la seule journée de lundi, on avait tellement de stock que la semaine aurait pu arrêter là et ça aurait été suffisant aussi. Et qu'est-ce qui a particulièrement retenu l'attention en début de semaine? Ça a été le brûlage de livres qui a été fait du comté de l'Ontario. S'il y a bien une histoire complètement aberrante et pas de bon sens que ce qui s'est passé cette semaine, c'est bien les livres qui ont été brûlés. Parce que dans ces fameux livres-là, il y avait une mauvaise représentation des Autochtones, ce qui a fait dire « Nous devons nous en débarrasser ». Et qui avait eu cette idée de génie? C'est Suzy Keyes, qui se faisait appeler la gardienne du savoir, qui a accompagné le conseil scolaire catholique Providence, en Ontario, dans l'exercice d'épuration de près de 5000 livres jugés néfastes pour les Autochtones. Donc, on a brûlé des bandes dessinées comme Tintin, comme Astérix. On a brûlé des biographies de, je pense, c'était Samuel de Champlain. On a brûlé des romans, on a brûlé des satires et des parodies. Autant en bande dessinée qu'en livre ordinaire. Et on a même brûlé une biographie parce que les Autochtones représentés sur la couverture du livre n'étaient pas approprié. Évidemment, ça a fait énormément jaser, au point que l'Europe a parlé de nous autres. Et, c'est évidemment, ça n'a pas passé. C'est évidemment, il y a eu un tollé autant pan-canadien que mondial, puisque la France et la Belgique en ont parlé. Au Canada, des écoles détruisent des milliers de livres jugés discriminatoires. Il n'y avait pas Pocahontas aussi là-dedans. Et on a décidé, pour brûler, c'était pas juste brûler, c'était une cérémonie de purification par la flamme qui a été organisée dans une école. Les cendres des livres ont servi d'engrais pour planter un arbre. C'était une démarche, dit-on, éducative. Comment se justifie le conseil scolaire catholique qui indique que enterrer les cendres du racisme et de la discrimination, c'est faire du positif à partir du négatif. Chacune des autres écoles aurait dû faire la même chose. Avec la bénédiction du ministère de l'Éducation, la pandémie ne l'a pas permis. 5000 ouvrages ont tout de même été retirés des rayons, 155 références totales. Donc, 5000 ouvrages at large, mais 155 livres choisis, sélectionnés, 155 titres. et où on a pu en rajouter une couche supplémentaire pour faire dire que cette affaire-là avait pas de bon sens. Susie Keys, la fameuse gardienne du savoir, n'est même pas autochtone puisqu'on a consulté sa généalogie et les 7 générations qui la précèdent n'ont aucune personne issue d'une communauté autochtone ou quoi que ce soit, bien qu'elle s'identifie à la communauté autochtone. Éric Pouliot-Teasdale, recherchiste pour le département de démographie de l'Université de Montréal, parle d'une histoire qui lui semble sortir dès le départ. Quand quelqu'un apparaît comme un cheveu sur la soupe, ça amène beaucoup de questionnements. Éric Pouliot-Teasdale, qui est lui-même autochtone de troisième génération, explique qu'il peut réclamer ce statut en vertu de la loi sur les Indiens. Ah, OK. Si les usurpateurs et usurpatrices ne cessent pas de prendre le peu d'occasions qui nous sont offertes, ça dépasse les bornes. Il explique aussi pourquoi, à son avis, les livres n'auraient jamais dû être brûlés, mais plutôt conservés et réutilisés dans un contexte pédagogique où on aurait pu remettre en contexte ces livres-là. Parce que, oui, Tintin, il y a plusieurs bandes dessinées problématiques. Tintin en Amérique, évidemment, ne fait pas exception à la règle. Mais avec des yeux de 2021, c'est sûr que ça a l'air encore plus grave. Pensons à Tintin au Congo. Probablement le pire. Sur la représentation des autres, Tintin au Congo est probablement le pire. Mais est-ce qu'on va brûler Tintin au Congo ou Tintin en Amérique parce que la représentation des gens ou parce qu'on utilise le terme « peau rouge » dans un truc qui a été publié il y a 60 ans, il y a 70 ans, quand les mœurs n'étaient pas les mêmes, quand cette expression-là n'avait pas la même connotation péjorative qu'aujourd'hui, en 2021, ça n'aurait pas de sens de dire des choses comme ça. Faut faire attention. Les bandes dessinées les plus récentes qui ont également été brûlées faisaient de la satire, faisaient une parodie pour expliquer l'histoire, expliquer la représentation de toutes les communautés. Il faut dire aussi que, bon, oui, il y a les stéréotypes habituels, mais il n'y a personne dans ces bandes dessinées-là qui est meilleur qu'un autre. Parce que si oui, les Indiens, les Autochtones sont représentés comme étant justement des Indiens avec des plumes, torse nu, avec des vêtements en paille, c'est l'espèce de cliché qu'on voit dans ces bandes dessinées-là, ben, les Anglais et les francophones, c'est des Soulons violents, pas très bien éduqués. fait que, tu sais, tout le monde y passe. Les Kiluk, même chose, tout le monde est épais un peu égal dans ces livres-là. Donc, de dire que seulement les Autochtones sont mal représentés, c'est pas tout à fait vrai. Et évidemment, ben, de vouloir faire une purification en brûlant les livres et en plantant des arbres, ça, c'est complètement ridicule. Même des chefs qui ont été rencontrés par les médias ont dit « C'est un peu exagéré. » Fait que même eux autres sont comme « Pourquoi vous avez fait ça? » Susie Keys qui essaie de se défendre. La presse qui avait effectué les recherches généalogiques dans les années 90 qui révèle les origines... En fait, Madame Keys a affirmé à la presse que sa famille, selon elle, avait effectué des recherches dans les années 90 qui lui révélaient plutôt des origines abénakis. Cela avait été confirmé, ce que ma grand-mère nous avait toujours dit. Elle explique toutefois sa démission de la commission en disant refuser qu'on se serve de son histoire pour nuire à Justin Trudeau et à son parti. parce qu'elle était représentante à la Commission des peuples autochtones du Parti libéral depuis 2016. Donc, Parti libéral qui avait organisé cette commission-là justement pour la réconciliation, comme il l'appelle, pour un peu... pour avoir des bonnes ententes. On peut dire ça comme ça? Et bon. Mercredi matin, Radio-Canada avait révélé que Mme Keys ne possédait pas le statut d'Indien en vertu de la loi et qu'elle ne figurait pas dans des registres de conseil de bande Abénaki et que sa seule ascendante autochtone datait du 17e siècle. Suzy Keys a qualifié de blessante, donc c'est ça, il fallait remonter à la 8e génération. Donc, pour être gardienne du savoir, ça recommençait à faire loin pas mal. Cette dernière qui s'est présentée comme une gardienne du savoir autochtone compte parmi les intervenants qui ont suggéré au Conseil scolaire catholique francophone Providence en Ontario de détruire 5000 livres jugés néfastes. Elle occupait le poste de coprésidente de la Commission des peuples autochtones du Parti libéral. Le Conseil scolaire catholique Providence, qui regroupe 30 écoles francophones dans tout le sud-ouest de l'Ontario, a annoncé quand même avoir suspendu la destruction de livres en évaluation qui étaient accusés de propager des stéréotypes sur le peuple autochtone. Mais encore une fois, plutôt que de l'expliquer, plutôt que de remettre en contexte, plutôt que de donner une explication, le Conseil scolaire catholique a décidé de juste tout détruire, on enlève ça, merci, bonsoir, c'est comme si on l'avait jamais vu. Évidemment, c'était la pire décision à prendre, mais ils l'ont fait, et ça a fait jaser. Et évidemment, ben, ils en ont parlé partout. Donc, voilà, quand on s'improvise, quand on s'improvise spécialiste, et que finalement, ben en fait, ne serait-ce que d'avoir peut-être consulté des historiens aurait pu... Je dis ça, là. Avoir peut-être consulté un historien qui aurait pu dire « Me semble que c'est excessif de brûler des livres, tu sais. » Ou un auteur concerné. Parce que non, Hergé peut-être plus là, mais dans les livres récents qui ont brûlé, les auteurs sont encore là. Évidemment, ils sont tous un peu choqués de s'être fait brûler leurs livres, ce qui est complètement compréhensible. Mais voilà. On va voir ce qui va en arriver. Évidemment, s'ils décident de recommencer à brûler des livres, là, ça n'aurait aucun sens. À cette heure qu'ils se sont fait pogner, s'ils continuent à brûler des livres, ça serait totalement loufoque et ça n'aurait aucun sens. Mais on sait jamais. On va espérer que quelqu'un, finalement, décroche en disant « Hey, c'était peut-être un mauvais call. C'était peut-être une mauvaise idée. » Et pour s'excuser, il devrait racheter les livres. Surtout les livres canadiens et surtout les livres qui ont été écrits par des Autochtones. Sauf erreur, il y en avait là-dedans. Je vais le vérifier pour être sûr, mais les livres qui ont été écrits au Canada devraient être rachetés, au minimum. On passe au débat, tout de suite après Robert avec les gens. On fait le tour de l'actualité de la semaine, parce que, comme je le disais en ouverture, il s'en est passé des choses cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de chez SFAC.
Certaines personnes rêvent d'être au-dessus des autres, mais au fond ils se foutent du ciel, c'est pour laisser d'être notre. S'ils vivent le long d'un côte, c'est pour être pris pour un phare et planer la marée haute quand leur vie est en retard. Oh, oh. Les gens faciles, les gens qui en valent la peine, les gens qui pleurent, les gens qui pendent des ficelles, les gens rêveurs qui veulent une vie républicaine. Les gens qui rient ou les gens qui parlent d'eux. c'est les gens. Oh, les gens qui font la fête. Oh, sans se casser la tête. Oh, les gens qui font la fête. Oh, faites de la place. Avec les gens. Oh, les gens qui font la fête. Oh, sans se casser la tête. Oh, les gens qui font la fête. Oh, faites de la place.
De retour au deuxième service. Dans les livres qui ont été brûlés, bon, évidemment, on a beaucoup spiné sur Tintin en Amérique, le Temple du Soleil, OK. Astérix et les Indiens et Lucky Luke. Trois albums de Lucky Luke. Mais la liste est un petit peu plus exhaustive et il y a des trucs qui font encore plus grincer des dents lorsqu'on lit les raisons qu'on a données pour brûler ces livres-là. Il y a des livres de bricolage qui ont été brûlés parce que ces livres comportent des bricolages perçus comme de l'appropriation culturelle. Donc probablement un bricolage de capteurs de rêves, ben on n'a pas le droit de faire ça. Le livre « Mange, écris, habille-toi » comme les Amérindiens. C'est sûr que le titre est un peu étrange, mais ce livre a lui aussi été retiré parce qu'il est perçu comme faisant de la promotion de l'appropriation culturelle. C'est sûr que le titre peut laisser un peu présager ça. Le livre « Les Esquimaux » a été retiré. On utilise des termes péjoratifs pour désigner des Inuits et des Autochtones. Donc, parce que c'est le terme « Esquimaux », on enlève le livre. La conquête de l'Ouest, les Amérindiens, les pionniers et les colons. Le livre a été retiré parce que le titre comporte le mot « conquête ». C'est la conquête de l'Ouest, mais il y a le mot « conquête ». Le livre « Vivre comme les Indiens d'Amérique », encore une fois, c'est un livre historique, c'est facile de le deviner. Il a été retiré parce qu'il représente les différentes cultures autochtones comme un tout, au lieu de reconnaître leur unicité. Fine. Les bandes dessinées La Flèche, voilà, c'est celle-là que j'avais en tête, de l'auteur québécois Marcel Levasseur. Les récits se déroulent à l'époque de la conquête en Nouvelle-France. Selon Radio-Canada, le conseil scolaire a jugé que le livre contenait un langage non acceptable et une représentation fautive des Autochtones dans les dessins. Mais encore une fois, comme je le disais, les bandes dessinées La Flèche, ben les gens qui découvrent le Nouveau Monde ont des fusils et sont un peu idiots. Fait que tout le monde est égal. Le livre Trafic chez les Hurons du journaliste André Noël, le livre porte sur un pan peu reluisant de l'histoire suite, soit le recours à l'alcool par des marchands de fourrure qui faisaient la traite avec les Autochtones dès le début de la colonisation, donc on rapporte des faits historiques, et ça serait la raison pourquoi on a décidé de censurer le livre, parce que on disait ce qui s'était passé et que les Autochtones se sont fait avoir par les marchands. Normalement, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être la France qui l'enlève parce que ça leur donne une mauvaise presse. Mais là, ça a l'air que c'est l'inverse. Parce qu'ils se sont fait saouler. C'est pas une bonne représentation. J'essaie de comprendre. Le livre « L'affaire du collège indien » de Sylvie Brien. Le roman policier et c'est un roman, porte sur les pensionnats autochtones, comble de l'ironie, et les drames qui s'y sont déroulés, a expliqué l'autrice en entrevue avec Paul Arcand sur les ondes du 98.5 FM à Montréal. C'est un roman policier, donc un roman, je le répète, sur les pensionnats autochtones. Et on a enlevé ce livre-là en Ontario. Le fils des Hurons, d'Étienne Brûlé. Le livre a été retiré pour fausse représentation de l'histoire. Rien de moins. C'est le livre d'Étienne Brûlé. OK, bon, c'est un livre de 1610. Alors âgé de 17 ans. Donc, c'est un livre historique qu'on a brûlé. Parce que c'est pas ça qui s'est passé. Mais c'est un gars qui raconte ce qu'il a vécu. C'est probablement un roman aussi. Spécial. Il y a les encyclopédies, comme je le disais, qui ont été également brûlées. Parce que les images, les dessins, les reproductions qu'il y avait dans les encyclopédies n'étaient pas fidèles à ce que normalement on aurait dû voir. Aucun des auteurs des livres n'aurait été informé du retrait avant la parution de l'article de Radio-Canada qui a découvert que, justement, soit on les enlevait des bibliothèques ou on les brûlait carrément. Plusieurs de ces livres ont été enterrés alors que d'autres ont été brûlés et certains auront été uniquement recyclés. Donc, évidemment, on aurait pu juste les mettre de côté. On en a brûlé. Ou quelques-uns ont été recyclés. Pour conclure, avec un article qui, eux, sont où? Sont en Europe. Pour sélectionner les ouvrages à retirer, les écoles se sont appuyées sur un comité composé de plusieurs personnes, dont Susie Keys, à l'origine d'une vidéo qui présentait la démarche aux élèves. Donc, on avait filmé une justification de pourquoi on allait brûler les bandes dessinées. Cette dernière est présentée comme une gardienne du savoir. Donc, c'était avant qu'on sache qu'elle était... Ça a été écrit avant qu'on sache qu'elle n'était pas vraiment autochtone, ou du moins que ça remonte à extrêmement loin. Si certains de ces livres sont datés, des ouvrages récents ont aussi été retirés. Interrogé par le Média canadien, le philosophe spécialiste de l'éducation, Normand Baillargeon, estime que le moment est venu de repenser ce que l'on enseigne sur l'histoire autochtone. C'est normal et sain. Mais que l'on brûle des livres me semble extrêmement troublant et ça a des relents historiques que je n'aime pas du tout. Pour sa part, le ministère de l'Éducation de l'Ontario précise qu'il revient à chaque conseil scolaire de choisir les livres présents dans ses bibliothèques et il a aussi réfuté toute participation de ses membres au comité mis en place par le conseil scolaire catholique Providence. Donc, ce serait vraiment le comité de Justin et de sa gardienne du savoir qui aurait pris cette décision-là et que par la suite... C'est la commission de... C'est Providence qui en fait, ben oui, on va brûler des livres. C'est une bonne idée. Fait qu'il y a comme eu deux étapes. Il y a une étape de penser à cette idée-là. Même trois étapes. Penser à cette idée-là. Faire une vidéo pour expliquer pourquoi qu'on va le faire. Et le faire. Parce qu'il y a là-dedans, il y a personne qui s'est levé et qui a dit « Me semble que c'est excessif. » On a essayé de la faire en cachette, mais ça a repris quelqu'un qui a été mis au courant et qui a pu partager la nouvelle. Donc, ça aurait fait jaser, c'est le cas de le dire. Et ben, ça donne une belle image internationale aussi. On brûle les livres au Canada. Voilà. On s'arrête quelques instants. Au retour, on continue à parler de l'actualité de la semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de chez et de CFAQ.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
La passe est captée par son receveur. Touché! Rouge et or!
Après une victoire convaincante la semaine dernière, le Rouge et Or reprend la route ce samedi à 14h pour affronter le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. L'avant-match débutera à 13h30 sur nos ondes. Rouge et Or contre Vert et Or, samedi 13h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Jamais j'aurais pensé que tu tombes avant moi.
finit toujours sec, mon Dieu. Valence avec Jamais j'aurais pensé qu'on vient d'entendre en musique. Deux faits divers avant de passer au débat de la semaine. Deux nouvelles qui n'ont pas de sens, qui se sont passées dans les dernières semaines. Du côté de Beauport, on a entendu énormément parler. Jean-Dominique Lemieux, qui s'est finalement adressé aux médias, qui a perdu sa femme, son beau-père et ses deux enfants dans un accident de voiture, puisqu'il y a un chauffeur complètement paqueté qui a percuté la voiture des quatre occupants et qui sont tous décédés finalement. Ce gars-là a perdu sa famille au complet de même. C'est adressé aux médias en milieu de semaine. Et il y a un peu de bien, on va dire, qui a réussi à s'en décoller. C'est probablement la partie qui fait que ça vire quand même bien cette nouvelle-là. Bon, il dit, moins d'une semaine après avoir perdu sa conjointe, sa fille, le garçon de sa conjointe et son beau-père dans un accident de route, Jean-Dominique Lemieux affirme qu'il n'en veut pas au conducteur, qui a fauché les siens. Ça, c'est de la résilience. Résilience énorme. Et il se dit fier également de sa fille, mais aussi du demi-frère d'Emma, Jackson, 14 ans, qui a aussi péri dans la collision. Ils ont tous les deux fait don de leurs organes. Et seulement Emma a contribué à sauver la vie de 5 autres enfants qui est en attente de greffe. Il dit « J'étais avec elle à l'hôpital hier, lundi, pour la dernière fois. J'ai juste pu la remercier de tout le temps l'amour qu'elle a donné à moi et à tous les gens autour d'elle. C'était sa fête de 10 ans la semaine passée. On a encore des cadeaux de pas donner et de pas déballer. » Donc, il est probablement qu'il allait fêter sa fête. Il faudrait pas que ce soit juste cette journée-là, parce que ça sera encore pire. Et le cœur d'Emma a pu être greffé de manière réussie à un autre enfant. Shelley, c'était une mère avec un très, très grand cœur. Ses enfants, c'était son univers. Il n'y avait rien de plus précieux qu'eux. C'est à sa demande si elle n'a pas choisi de partir avant eux pour ne pas vivre sans eux. Malgré le dame et l'ampleur de la douleur, il assure qu'il n'en veut pas au conducteur, dit-il. Que l'accident serve de message pour enrayer le problème d'alcool au volant. Ça ne sert à rien en ce moment d'en vouloir. Lui, la justice s'en occupera. Que je sois enragé, peu importe, ça ne les ramènera pas. Ça ne ramènera pas mes enfants et mon épouse. Tout ce que je peux faire, c'est propulser le message que l'alcool au volant 2021, si des gens n'ont pas encore compris. On est rendu là. Le décès des deux jeunes a été confirmé samedi, donc deux jours après, en début d'après-midi, quelques jours après l'accident qui avait fauché sur le coup. Et Shelley Fletcher et James Fletcher, 44 et 68 ans. Éric Légaré, 43 ans, était soupçonné à ce moment-là d'avoir provoqué l'accident. 8 chefs d'accusation avaient été déposés contre lui vendredi dernier, notamment ceux de conduite avec les facultés affaiblies ayant entraîné la mort. Et c'est un récidiviste. C'est pas la première fois qu'il conduisait paqueté au volant. Et c'est pas seulement du fait que la lumière à Beauport où ça s'est produit est probablement la lumière la plus conne au monde. Mais apparemment, Bonnardel aurait dit qu'il allait réfléchir à la situation puis qu'il fallait plus que ça arrive. Il dit ça toutes les fois. En 2017, Légaré avait plaidé coupable en cour municipale de conduite avec les facultés affaiblies au volant, selon maître Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre Bertrand, procureur du DPCP. Il a été condamné à une amende à l'époque de 1 000 $ et une interdiction de conduire pendant 12 mois. Donc en 2018, ils ont redonné son permis. Selon la Sûreté du Québec, Éric Légaré aurait causé l'accident alors qu'il circulait avec les facultés affaiblies par l'alcool à grande vitesse en direction ouest sur l'autoroute Dufresne. Excusez, on est à Québec. Dufresne, Montmorency. C'est pas le temps de faire des blagues, je m'excuse. Il a percuté trois voitures qui étaient immobilisées à un feu de circulation. Une personne dans la voiture du milieu a aussi été légèrement blessée, mais évidemment, ceux dans qui il était rentré directement, eux, ça n'a été aucune chance. Les funérailles avaient lieu en fin de semaine et bon voilà, c'est une récidive, c'est ça le pire, c'est que c'est une récidive, c'est pas une première fois, c'est une récidive, aucun sens. Et probablement la nouvelle qui a fait le plus rager en début de semaine, à Saint-Flavien, en 2018, il y a eu un accident mortel qui s'est produit, qui avait fauché la vie également d'une petite fille. Décédée sur le coup, elle s'est fait ramasser par un camion. Comme elle résidait à moins de 800 mètres de l'école, elle n'avait pas accès au transport scolaire. Donc, elle devait se rendre à pied à l'école. Mais dans le secteur où elle restait, où elle demeurait, il n'y avait pas de trottoir. Et selon le rapport du coroner, déjà avoir eu un trottoir, ça aurait pu être beaucoup moins pire que juste un gros pick-up qui ne peut pas voir une petite fille de 8-10 ans de par la hauteur. Trottoir, elle aurait déjà été un petit peu plus surélevée. Évidemment, je pense pas que, en tout cas, rapidement, je pense pas qu'il y avait d'alcool impliqué là-dedans parce que c'est le matin, mais bon, encore une fois, ça veut rien dire. Mais quand même, il y a eu un référendum. Donc, plutôt que de la municipalité dise oh, oui, on va faire un trottoir, ils ont décidé de faire passer ça par un référendum. Donc, ils ont demandé à la population de Saint-Flavien de voter en faveur ou non d'installer un trottoir sur la rue principale, parce que le coroner avait recommandé de mettre un trottoir là pour peut-être éviter de tuer d'autres monde. La coroner Gayane Kamel écrivait que l'accident qui avait coûté la vie à Anaïs Renault, 11 ans, aurait pu être évité par la présence d'un trottoir piétonnier sur la rue principale où s'est produit... la tragédie. Elle a recommandé l'implantation d'un trottoir sur la rue principale à l'endroit où le VUS était entré en collision mortellement avec Anaïs Renault. Le problème, c'est que les habitants de Saint-Flavien ont voté contre l'instauration d'un trottoir. Quand tu dis une idée de marde, la v'là. Une large majorité des habitants de Saint-Flavien se sont déclarés opposés au projet de construire un trottoir sur la rue principale pour 1,2 million de dollars lors d'un référendum. La question qui était posée aux résidents était de savoir s'ils acceptaient ou non que la municipalité emprunte exactement 1 191 000 pour faire des travaux. Résultat du référendum, 489 non, 112 oui. Aberrant. Évidemment, les parents de la fillette, happés mortellement par le VUS, se sont dit attristés et complètement blessés lundi par l'opposition des citoyens à la construction d'un trottoir. Pas le réaménagement de la rue, non, mettre un trottoir. Avant d'habiter à Saint-Flavien, nous n'aurions jamais même pu imaginer qu'il était possible de s'opposer à une infrastructure aussi simple et répandue. Les résultats actuels nous dépassent complètement. Ont déclaré les parents d'Anaïs, Jacinthe Latulippe et Étienne Renault dans un courriel adressé aux médias.
À leurs yeux, la petite communauté de Saint-Flavien a donc fait le choix de ne pas considérer les données probantes en matière de sécurité, ni d'offrir sa solidarité aux résidents qui souhaitaient sécuriser la rue sur laquelle ils habitent. Les parents se disent attristés et blessés, les résultats qu'ils interprètent comme un manque de sensibilité et le rejet complet d'une réalité. Seul petit point positif, la municipalité voisine de Laurier Station, eux, ont eu le courage, on est là, le courage, entre guillemets, d'agir en organisation responsable en prolongeant son trottoir actuel afin d'offrir une meilleure protection aux utilisateurs vulnérables de la route 271. Donc, Laurier Station, village à côté, ils ont vu ça, ils ont dit, on va le faire le trottoir. C'est important. Saint-Flavien, on va poser la question aux citoyens. Fait que comme ça, s'ils disent non, on s'en lave les mains puis on le fera pas. Complètement lâche comme attitude, c'est d'un ridicule. Dire non à un trottoir. Autant que de poser la question, c'est niaiseux. Autant les gens qui sont allés voter contre un trottoir sont encore plus niaiseux. Oui, démocratie, je veux bien, mais là, pour une affaire importante, on fait comme non, nous autres, on est au-dessus de ça, les trottoirs. Complètement ridicule. On s'arrête. On s'en va en musique. Je lisais cette nouvelle-là et j'étais fâché pour vrai. T'sais, le gros bon sens était pas à Saint-Flavien la fin de semaine passée. Littéralement. Complètement décevant. Tamara Weber. En musique, on va l'entendre. Notre faute. C'était pas prévu, mais on va l'entendre. Notre faute sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3.
Je ne sortirai jamais de la douche. Le monde est bien trop cruel dehors. On empoisonne bien tout ce que l'on touche. Moi, je m'enfermerai. On s'en vautre, on se vautre. Quelle est douce notre faute. On n'empêche pas la roue de tourner. Mais des fois je me demande où on a passé droit. A-t-on eu tort de foncer tête baissée? Loin des doutes, loin des autres. Une Oui, mais est-ce qu'on pourrait changer la donne? Est-ce qu'on pourrait changer la donne? Oui, mais est-ce qu'on pourrait changer la donne? Ça ne sortira jamais de ma bouche. Le monde est bien trop étroit d'or. On emprisonne bien tout ce que l'on goûte. Moi, je disparaîtrai quelque part. Loin des doutes, loin des autres. Une joute s'échafaud. On s'en fout, on se vaut.
Deuxième service pour la conclusion de cette semaine. Bon, finalement, il y a un petit peu moins de temps prévu pour le débat. Le reste de l'actualité a pris le dessus. Mais comme je dis, il y avait réellement beaucoup de sujets cette semaine. Il y a eu des semaines un petit peu plus creuses en nous, mais cette semaine, il y avait vraiment beaucoup de stock. C'était les débats des chefs anglais, français, hier et... mercredi en français, hier en anglais. Deux débats complètement différents. Et c'est le cas de le dire, ne serait-ce que par le style d'animation et aussi les sujets abordés. Comment résumer les deux soirées? La version française était bonne pour Yves-François Blanchet. Et probablement parce que c'était trop bon pour Yves-François Blanchet, les Anglos ont décidé de se venger. ou du moins, dans le cas du débat en anglais, on est allé extrêmement raide. La première question qui était posée par la modératrice, qui n'est pas journaliste, mais qui travaille pour la firme de recherche Angus Reid, donc qui animait le débat, je pense, en fait, semble-t-il, sur les réseaux sociaux, elle avait déjà, par le passé, fait des animations de débats, genre en Colombie-Britannique, débat des chefs britanniques, je pense, colombien-britannique, qu'elle avait fait. Donc, c'est pour ça qu'on la retrouvait au débat principal. Donc, ce n'était pas l'animatrice habituelle qui est la présentatrice de CTV News, mais c'était une nouvelle personne. Donc, au Québec, on la découvrait d'une certaine manière. Et elle était très raide dans ses questions. Elle a commencé très raide avec des questions à Jagmeet. Pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour vous quand vous n'avez pas de chiffres dans votre plateforme? Justin, personne ne vous laisse de cette élection-là. Qu'est-ce qu'on fait là? Andrew Scheer, vous dites telle affaire au Québec. Pourquoi vous dites pas la même affaire en anglais et inversement? Et à Yves-François, elle avait gardé une question du style... Pourquoi appuyez-vous les lois racistes de François Legault? Fait que, tu sais, le ton était donné. Le ton était donné. Et c'est revenu à quelques reprises. Notamment aussi la journaliste de CBC. Elle était pas de bonne humeur avec Yves-François Blanchet. Parce que quand on faisait le point de presse, étrangement, le côté francophone ne le présentait pas. Mais du côté anglophone, on présentait les questions qui étaient posées au chef de parti. Et à toutes les fois qu'on attendait un autre chef, elle essayait de revenir sur le fait que Yves-François Blanchet et le Bloc québécois appuyaient le projet de loi de François Legault. Fait que tu sais, j'ai ce petit feeling-là qu'elle aime pas ben Yves-François Blanchet. Ça paraissait un petit peu beaucoup. C'était la dame habillée en mauve pour la resituer. Malheureusement, j'oublie son nom à cette charmante dame. Évidemment, Yves-François Blanchet, en colère, s'est présenté au micro des journalistes. Comme il l'a si bien dit, c'était une chaudière d'insultes au visage des Québécois. Les autres débats ont été faits au Québec, celui-là a été fait au Canada. A d'emblée lancé le chef du Bloc, qui estime que le Québec a été laissé de côté tout au long de la joute oratoire en anglais. Imagine pendant le débat franco comment ils n'ont pas parlé de la francophonie au Canada. Pendant deux heures de temps, ça a été pas mal que le Québec. Et il y a beaucoup de gens qui l'écrivaient sur Twitter. Ah, c'est le fun pour les Françaisquois, pour le Nouveau-Brunswick, on parle d'eux autres, hashtag not. Fait que tu sais, c'était très, très, très axé sur le Québec, le débat francophone. Et dans le débat anglophone, ben, on a essayé de ratisser le plus de sujets possible en deux heures. Et ça a fait d'ailleurs dire à Anami Paul, me semble on serait dû pour avoir plus que juste un débat en anglais de deux heures dans toute la campagne avec tout qu'est-ce qui se passe en ce moment, et qu'est-ce qui devrait se passer. Ça faisait... Parce que nous, on avait peut-être comme quatre grandes thématiques, quatre grands sujets. Le débat anglais, on avait à peu près 10. Fait que ça allait... Ils ont manqué de temps, même, au débat en anglais. Fait que c'est allé beaucoup plus difficilement dans le pendant anglophone. Et c'était un peu ironique de dire ça, mais c'était très carré comme débat. C'était la modératrice, et non la journaliste, mais la modératrice interrompait les chefs de parti pour essayer de redonner la parole à un autre quand tout le monde parlait en même temps, mais ou coupait complètement le chef de parti parce que ce n'était pas le moment de parler de ce sujet-là. Fait que tu sais, elle a tant bien que mal essayé de respecter son plan, même si évidemment des fois il essayait de partir sur d'autres sujets, mais une affaire peut-être trop rigide du côté anglophone, mais nous autres du côté francophone, on était quand même beaucoup plus lousse. Trop lousse, je sais pas, mais on a beaucoup axé le fait que les gens avaient des questions dans le débat francophone, tandis que dans le débat anglophone, c'était vraiment les journalistes qui avaient préparé des questions. Fait que tu sais, deux vibes complètement différentes, deux ambiances complètement différentes, et comme l'avaient dit plusieurs analystes, déjà en partant que la pige avait fait en sorte que Yves-François soit la cinquième chaise au bout de la liste, au bout des podiums. C'était un désavantage énorme pour Yves-François Blanchet d'être mis un petit peu en dehors du débat. Mais de toute façon, les commentateurs, analystes et tout ça, qui est en tout cas les modérateurs du débat, eux, de toute façon, étaient bien contents. Je pense que Yves-François ne se voit pas dans le milieu de la salle. D'ailleurs, ça a fait dire à Yves-François, à la fin du débat, qu'il avait parlé 4 minutes de moins que tous les autres. Est-ce qu'on allait lui donner ce temps-là? Et la modératrice de faire, ben non. Fait que ça a été spécial, ça a été une grosse ambiance. Est-ce qu'il y a des gagnants aux deux débats franco ou anglo? Pas vraiment. Ceux qui ont été les moins pires, Erin en anglais, Justin en français, t'es correct. Et François, évidemment, en français, beaucoup plus à l'aise. Ce qui a fait demander quand même aux autres, comment est-ce qu'on dit « how do we say logement abordable? » C'était très sympathique. Mais sinon... Y a-tu vraiment eu un gagnant dans ces débats-là? Pas vraiment. Y a-tu eu des perdants? Pas vraiment non plus. Jack Meat a été un petit peu sous-performant, autant en anglais qu'en français. En français, parce qu'il y avait de la difficulté. En anglais, parce qu'il s'imposait pas. Dans les deux cas, il s'imposait pas. Bon, il avait déjà reproché pour le débat à TVA, par exemple. Débat à TVA, même chose. Y a-tu vraiment eu un jab sérieux, un gagnant sérieux? Plus ou moins. Erin O'Toole n'avait pas été très bon à TVA, mais c'était quand même repris pour le débat franco. Quoique, Erin O'Toole a un plan. Il a un contrat avec les Canadiens. Contrat d'ailleurs qui n'est toujours pas arrivé dans les boîtes à mal d'aucun Canadien. Ou en tout cas, moi, je ne l'ai pas eu. Mais plusieurs ont l'air de ne pas l'avoir eu. Et il avait déposé en plus ses chiffres 2 heures avant le débat en français, fait qu'il pouvait pas se faire questionner là-dessus. Non, il y a des petits tours comme ça ici et là. Le vote par anticipation débute en fin de semaine. Allez voter si vous ne pouvez pas aller voter le 20 septembre prochain, le lundi 20 septembre au soir. Toujours important d'aller voter, même si ça ne vous tente pas. Ne serait-ce que d'aller cocher toutes les cases, au moins il y a un vote d'enregistré, même si c'est pour voter pour la plante verte ou pour voter pour la chaise. Donc, sortez voter. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service.